7 heures. Le journal de 7 heures. Linda Christelle Ballier.
Bonjour et bienvenue sur Radio de la Paix pour cette première session de l'information de ce 30 octobre. À la une de ce 7 heures, économie, le gouvernement ivoirien prêt à accompagner le patronat pour un secteur privé plus dynamique et plus performant. Le Premier ministre l'a annoncé lors de la cérémonie de clôture de la 11e édition du Forum économique CGC Academy. Et parlons de transport. Le guichet unique améliore son système d'immatriculation des véhicules. C'est un constat terrain fait par notre reporter Junior Cardin que nous retrouverons au cours de cette édition. Dans l'actualité sur le continent, une délégation s'est rendue à Kinshasa en République démocratique du Congo pour rencontrer l'opposant tchadien Succès Mara en exil en vue d'un retour sur sa terre natale, le Tchad. Et puis la revue des titres de vos journaux parus ce lundi sera l'affaire de Aoussi Potin que nous retrouverons avant la fin de ce journal. Et puis en toute fin d'édition, dans le cadre de l'invité de la rédaction, Gapinan Ouattara recevra le juriste et analyste politique Geoffroy Julien Kouaou sur la question de création de groupes parlementaires au Sénat où la quasi-totalité des membres sont ceux du parti au pouvoir. Économie, 11e édition du Forum économique CGC Academy 2023. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a annoncé que le gouvernement ivoirien est déterminé à poursuivre et accompagner l'ensemble des actions engagées par le patronat ivoirien en vue de bâtir un secteur privé plus dynamique et plus performant dans notre pays. Il a donné cette information lors de la clôture le 27 octobre dernier de la CGC Academy 2023 dans un réceptif hôtelier à Abidjan-Cocody. Écoutons Robert Begré-Mambé à cet effet.
Le gouvernement que j'ai l'insigne honneur de diriger est totalement déterminé à poursuivre et à renforcer l'ensemble des actions engagées sous mes illustres prédécesseurs en vue de bâtir un secteur privé ivoirien plus dynamique et plus compétitif, pourvoyeur d'emplois décents et durables pour les jeunes. Il s'agit notamment de favoriser une intégration réussie des PME au tissu économique ivoirien ainsi qu'aux chaînes de valeur régionales et internationales de toutes les filières à grande valeur ajoutée afin de faire de la Côte d'Ivoire l'un des pays les plus attractifs de la sous-région. Nous comptons à cet effet associer le secteur privé aux séminaires gouvernementaux thématiques afin d'identifier ensemble les réformes spécifiques pour chaque secteur d'activité. Notre monde est en plein bouleversement. S'il est vrai que cette mutation s'accompagne de sérieux défis à relever, elle apporte également de précieuses opportunités pour l'éclosion du secteur privé africain. Sachez de saisir, en faisant preuve d'ingéniosité, d'audace et de pragmatisme. Soyez totalement assurés qu'en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le gouvernement continuera de faire du développement du secteur privé sa priorité absolue, en mettant tout en œuvre pour vous accorder le soutien bien ajusté de l'État dans le développement de vos entreprises.
À l'instant, le Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mambé, à sa suite le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, s'est penché sur les défis auxquels les entreprises doivent faire face pour relever la croissance économique de l'Afrique subsaharienne et plus particulièrement ivoirienne, Souleymane Diarra Souba.
Quatre défis majeurs. Le premier défi est l'investissement dans l'innovation en vue de renforcer l'intégration des entreprises dans les marchés régionaux. Le deuxième défi est l'amélioration de la qualité. En effet, au-delà de son rôle en tant qu'instrument d'accès au marché et de facilitation du commerce, la qualité intervient comme un outil d'accélération de la transformation industrielle et manufacturière par sa capacité à permettre aux entreprises de mettre à niveau et de mieux écouler leurs produits sur les marchés nationaux et internationaux. Le troisième défi représente le renforcement des capacités des entreprises, les PME, les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises, à travers l'accompagnement et le financement. Le quatrième défi porte sur la digitalisation. Le développement fulgurant des technologies de l'information et de la communication ces deux dernières décennies, basé sur la recherche et l'innovation, a permis l'émergence au niveau mondial d'une économie numérique robuste et en pleine croissance qui impacte significativement l'activité économique dans son ensemble ainsi que la vie sociale. Le plan national de développement 2021-2025 a identifié 7 clusters, secteurs stratégiques prioritaires sur lesquels notre pays dispose d'avantages comparatifs. Il s'agit de l'agro-industrie, la chimie et la plasturgie, les matériaux de construction, d'ameublement et d'équipement, l'industrie pharmaceutique, l'industrie textile, l'assemblage et l'emballage, la fabrication de pièces de rechange, le montage et l'assemblage d'automobiles.
Les propos du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Promotion des PME et ceux du Premier ministre avant lui ont été recueillis par Paul-Bénédicte Bolou. Et puis la présidente de l'ONG Alternative Citoyenne Ivoirienne, Pulcher Igbalé, s'est prononcée récemment sur le nouveau gouvernement du ministre Robert Begré-Mambé et la gouvernance en Côte d'Ivoire. Pour elle, les changements, malgré les changements de chef de gouvernement, le nombre de ministres reste préoccupant. Et la suppression du ministère de la Réconciliation nationale est mal à propos. Écoutons donc les explications de Pulcher Igbalé, présidente de l'ONG Alternative Citoyenne Ivoirienne.
On a retenu 3 aspects. Le premier, c'est le fait qu'il soit pléthorique parce que on avait 32 ministres. Là, on est à 33. Mais en plus de ces 33, comme on l'avait dit dans notre vidéo, il y a 14 ministres gouverneurs qui ont un conflit de compétences avec les préfets de région et les présidents de conseils régionaux, alors qu'ils gèrent des milliards. Mais on a aussi d'autres postes à rang de ministres. On a des ministres des affaires présidentielles. C'est tout ça qui constitue en réalité le nombre de ministres dans ce pays. Donc, nous estimons que c'est pléthorique. La deuxième chose, c'est le fait qu'il y a des attelages qui ne sont pas logiques. Quand on met le ministère des Sports avec le cadre de vie, c'est incohérent puisque le cadre de vie a trait à l'environnement, notamment l'environnement de nos habitations. Et donc, ça devait être logé soit au ministère de l'Environnement, soit au ministère de la Construction, de Logement et de l'Urbanisme, soit au ministère de la Salubrité. Ça n'a rien à voir avec les sports. La troisième chose, c'est la suppression du ministère de la Réconciliation. Nous estimons que les Ivoiriens ne sont pas encore réconciliés et qu'il y a de grosses problématiques qui ne sont pas encore résolues pour qu'on puisse faire disparaître ce ministère.
Pulcher Igbalé à l'instant, présidente de l'ONG Alternative Citoyenne Ivoirienne. Parlons transport à présent. Le nouveau système d'immatriculation des véhicules a atteint un bon niveau de rendement d'une 20aine de plaques il y a 4 mois. Le guichet unique est aujourd'hui à plus de 250 plaques apposées par jour. C'est le constat fait par une visite d'immersion du ministère des Transports le jeudi 26 octobre dernier. Le compte rendu est signé Junior Cardin qui y participait.
Au terme de cette visite qui a conduit le directeur de cabinet numéro 2 à suivre le circuit de l'établissement de la plaque dans toutes les directions impliquées, Abdoulaye Aliagui, au nom du ministre des Transports, a salué les efforts enregistrés.
Le nouveau système initial d'immatriculation des véhicules automobiles a été mis en vigueur. Et donc, 4 mois après, il était important donc, de venir visiter les services. Alors, nous avons fait cette visite. Nous avons constaté que tous les services sont en place et que les différents services se sont appropriés le mode opératoire qui a été défini et que les choses se déroulent bien.
Ces performances obtenues sont corroborées par des résultats tangibles dus au maillage des différents acteurs, au dire du directeur général du guichet unique, Touré Souleymane.
Le système était tributaire de bien des difficultés, au point où nous n'avions qu'une 20aine de véhicules qui arrivaient à poser des plaques en une journée. Mais aujourd'hui, grâce à la contribution donc de tous les acteurs du guichet, l'impulsion créée par le ministère des Transports, nous avons réussi à atteindre un niveau de 250 et même plus en termes de pics. Et en moyenne, c'est 200 plaques que nous posons jour. Il faut dire que c'est un travail herculien qui a été fait, mais c'est aussi l'occasion de remercier tous les acteurs du guichet.
Le code QR qui est sur la plaque symbolise cette volonté d'agir sur la sécurité routière qui est derrière l'avènement du nouveau système d'immatriculation. Et l'objectif du ministère des Transports est de faire en sorte qu'en 3 jours, un dossier soit ouvert et que les différents services puissent aller jusqu'à l'immatriculation et à la pose de la plaque.
Merci à vous, Junior Cardin, pour ce compte rendu. Et puis, parlons de transport, toujours 2 entreprises ivoiriennes dans le domaine de transport aérien, cette fois maritime et terrestre, ont décidé d'unir leurs forces dans un secteur dominée par les multinationales afin de répondre aux besoins locaux tout en aidant à la réduction de la cherté de la vie à travers des actions citoyennes. Pour matérialiser leur collaboration, une signature de convention a eu lieu dans la commune de Cocody entre Forus Transport Agile et Rach Paco. Les détails avec Jean-Mélène Bitti.
Lors de cette signature de convention, César Indri, fondateur de Forus Transport Agile, dit répondre à l'appel du chef de l'État qui encourage l'entrepreneuriat des jeunes.
Nous sommes tous deux Ivoiriens pour montrer aussi aux entrepreneurs et ceux qui veulent entreprendre que c'est possible de le faire même au niveau local. La solution est trouvée à l'international, au niveau local. Et c'est vraiment un signe fort qui montre un peu la fiabilité de ce qu'on veut faire.
Pour marquer le début de leur activité, les deux partenaires ont décidé à leur niveau d'aider à la réduction de la cherté du coût des produits vivriers en réduisant de 20% le coût de transport des marchandises via leur flotte. Pas comme Yao.
Chacun a son rôle à jouer dans la cherté de la vie. En tant qu'entreprise citoyenne, plus solidaire, on a décidé de réduire de 20% le coût du transport qui est un facteur non négligeable dans le coût de revient des produits vivriers sur le marché. Toutes les décisions ne peuvent pas être gouvernementale. Mais chacun à son niveau peut impacter la cherté de la vie, peut impacter la vie de tous les Ivoiriens en pensant au bien de tous.
En cette année dédiée à la jeunesse par le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, les initiateurs de cette signature de convention entendent s'engager résolument à la conquête du marché ivoirien et ouest-africain.
Dans l'actualité sur le continent, une délégation s'est rendue en République démocratique du Congo pour rencontrer l'opposant tchadien Succès Mara en exil en vue du retour au Tchad. En effet, les pourparlers se poursuivent en vue de son retour au Tchad en exil depuis sa répression sanglante des manifestations du 20 octobre 2022. L'opposant se retrouve depuis 27 octobre à Kinshasa où il doit rencontrer le président congolais Félix Tshisekedi, désigné facilitateur par la communauté économique des États de l'Afrique centrale dans cette crise. Une délégation tchadienne est arrivée à la capitale Kinshasa à cet effet dans la capitale congolaise pour rencontrer Succès Mara et la facilitation congolaise a accueilli hier dimanche dans la soirée une délégation gouvernementale tchadienne composée notamment du ministre de la Réconciliation Abderrahman Koula Mala. Et puis de retour en Côte d'Ivoire, précisément dans les studios de Radio de la Paix à la Riviera 4, pour retrouver Aoussi Potin ce matin qui s'est chargé de parcourir pour vous les unes des quotidiens parus ce lundi. Bonjour Aoussi.
Bonjour Linda, bonjour à toutes et à tous. Il faut noter qu'en thème de principaux sujets donc qui font, excusez-moi, les unes de nos tabloïds parus ce lundi 30 octobre 2023 figurent, selon notre choix, en première position, donc la visite du président sénégalais en Côte d'Ivoire, son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Sur le sujet, Fraternité Matin présente à sa une un Macky Sall tombé sous le charme d'Abidjan avec cet extrait de propos. Abidjan s'est métamorphosé, un ravissement du président sénégalais que relaie aussi de son côté le quotidien Le Patriote qui indique à sa une que pour Macky Sall, la Côte d'Ivoire est devenue un modèle que beaucoup doivent imiter. Au-delà du charme d'Abidjan, l'expression pour sa part nous apprend que les deux chefs d'État ont évoqué la situation sous-régionale et internationale dans une convergence de points de vue, sans oublier la bonne qualité des relations entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Autre sujet à lire donc à la une de nos tabloïds de nos journaux parus ce jour, Linda, l'avenir du PDCI RDA après le décès de son président Henri Konan Bédié. De nouveau réveil titre sur le sujet, succession du président Bédié, PDCI RDA, le grand choc des ambitions, avec pour illustration les photos de Maurice Kakougui Kahui, actuel secrétaire exécutif en chef du vieux parti, Akossi Bengio et Tidiane Thiam, tous deux membres du bureau politique du PDCI RDA. Trois figures que l'on retrouve aussi en une de Fraternité Matin qui, sur le même sujet, parle donc de guerre, d'une guerre des trois et non de trois, entre ces trois grands poids lourds du PDCI RDA. Est-ce qu'il faut craindre une implosion de ce parti dans l'avenir? Eh bien, en tout cas, c'est le cri d'alerte que semble lancer à sa une le Rassemblement qui, sur le sujet, donc indique congrès de décembre. Le PDCI RDA risque fort de voler en éclats les raisons profondes. Terminons toujours en parlant de politique. Avec la rencontre au niveau du PPSCI entre son président et ses six maires élus, Soir Info en parle ce matin, situation politique, ce que Gbagbo a relaté aux 6 maires élus de son parti. Et puis sur le même sujet aussi, l'Inter, politique nationale, Gbagbo parle aux 6 maires PPACI et l'avenir. Un tantinet un peu, on va pas dire provocateur, mais en tout cas un tantinet un peu titillant, le parti donc de Gbagbo indique ceci. Après la débâcle aux élections municipales et régionales, Gbagbo et le PPACI sortent enfin de leur bulle.
Merci à vous, à aussi Potin, pour cette revue des titres. Dans l'édition de 8h, vous serez encore parmi nous pour le même exercice. Dernière articulation de ce journal, l'invité de la rédaction. Et dans ce cadre, Gapienan Ouattara reçoit pour vous le juriste et analyste politique Geoffroy Julien Kao pour parler justement de la création de groupes parlementaires au Sénat, institution composée de 99 sénateurs dont les deux tiers sont élus au suffrage universel indirect et le tiers restant désigné par le président de la République. Toutes choses, en tout cas, seulement 6 sénateurs sont issus du PDCI-RDA, parti d'opposition, et donc toute chose qui rend difficile la création d'un groupe parlementaire au regard des textes qui régissent le Sénat. Pour en parler donc dans l'invité de la rédaction, Gapienan Ouattara reçoit Geoffroy Julien Kwao.
Monsieur Geoffroy Julien Kwao, bonjour.
Bonjour Monsieur Ouattara.
Candidat unique du RHDP et ex-ministre des Affaires étrangères, Kandia Kamisoko Kamara a été élue le 12 octobre dernier présidente du Sénat. Cependant, la question de la composition des groupes parlementaires de l'opposition se pose. Comment remédier à cette difficulté?
À l'observation, l'opposition n'a pas les moyens actuels pour former un groupe parlementaire au niveau du Sénat. En ce sens que les dispositions pertinentes du règlement intérieur du Sénat stipulent que pour créer un groupe parlementaire, il faut avoir au moins 8 sénateurs.
C'est ça.
Or, aujourd'hui, quand on regarde bien la composition du Sénat, le PDCI-RDA n'a que 6 sénateurs, ce qui met ce parti dans l'impossibilité de former un groupe parlementaire. Alors, que faut-il faire? La seule chose à faire, c'est de réviser le règlement intérieur du Sénat. Et cela peut se faire à la demande d'une vingtaine de sénateurs. Encore que tous ces sénateurs-là sont membres du RHDP. Donc, il va falloir certainement une volonté politique pour demander aux sénateurs de réviser le règlement intérieur à l'effet de ramener le quorum de 8 à 6 sénateurs pour former un groupe parlementaire. À défaut, nous aurons un Sénat monocolore.
Un Sénat monocolore, est-ce une bonne image pour la démocratie en Côte d'Ivoire?
Oui, la démocratie, elle est plurielle, elle est diverse. Et dans une assemblée délibérante comme celle du Sénat, il faut plusieurs sensibilités politiques. Mais le problème, c'est que les sensibilités politiques naissent à partir des élections. Malheureusement, les dernières élections ont montré qu'il y avait une seule sensibilité politique en Côte d'Ivoire, c'est celle du RHDP. Donc, le jeu démocratique a été fait. Il n'y a pas d'anomalie en tant que telle. C'est parce que nous sommes aujourd'hui dans une démocratie avec un parti présidentiel extrêmement dominant. Il faut donc peut-être que les partis d'opposition, c'est-à-dire le PDCI-R, le PPACI et autres, réajustent leur stratégie politique pour pouvoir, lors des prochaines élections, avoir des représentants au niveau des deux chambre du Parlement pour avoir plusieurs groupes parlementaires.
On a également assisté le mardi dernier à Yamoussoukro à la mise en place des organes de l'institution du Sénat. Quelle importance cela revêt selon vous?
Oui, mais le Sénat est une institution et comme telle a une organisation, un fonctionnement et des attributions. Et au niveau des organes, il y a le bureau, il y a ensuite les commissions permanentes, les groupes parlementaires et autres qui animent le fonctionnement du Sénat. Et donc, c'est normal que ces organes se mettent en place pour animer le Sénat. Le problème, c'est que dans ces commissions, l'opposition ne sera pas suffisamment représentée parce qu'elle n'a que 6 représentants. sur 99, ce qui est largement insuffisant. Mais attention, la faute n'incombe pas au RHDP, encore moins au test du Sénat. Non, le test du Sénat comme le test de l'Assemblée nationale permettent une représentation proportionnelle de l'opposition dans toutes les instances. Mais encore faudrait-il qu'il y ait des sénateurs de l'opposition. À l'observation, il n'y en a pas assez. Et donc tout cela est regrettable, mais ça doit nous amener à la réflexion, à la recherche d'une innovation politique quant à revoir le cadre juridique des élections, le cadre théorique, même le cadre institutionnel, pour permettre une meilleure représentativité des différentes sensibilités politiques. On peut par exemple revoir le mode de scrutin, etc. On peut aussi par exemple revoir par exemple les conditionnalités de candidature aux différentes élections. Bref, si on veut avoir une démocratie plurielle, par définition, et non une démocratie populaire, il nous faut redéfinir le cadre théorique, juridique et institutionnel de nos élections.
Parlant effectivement des différents partis d'opposition, on assiste au niveau du PPACI à un réaménagement dans la direction du parti. À l'analyse, qu'est-ce que cela vous inspire?
Non, c'est simple. Laurent Gbagbo a tiré les conséquences de la dernière débâcle électorale de son parti aux derniers scrutins électoraux au niveau des élections locales et de l'élection sénatoriale. Il tire donc les conséquences et il a compris que si en 2025 le PPACI veut compter sur l'échiquier politique national, il lui faut un nouveau souffle avec une nouvelle direction. Et c'est ce qui explique à mon sens ce réajustement de la direction du PPACI qui certainement aura deux principales missions. La première consistera à permettre à Laurent Gbagbo de se réinscrire sur la liste électorale, donc à la régularisation, veiller à la régularisation du statut pénal de M. Laurent Gbagbo avec son corollaire qui est sa réinscription sur la liste électorale. Et puis ensuite, la deuxième mission, c'est mettre en place une machine électorale qui va permettre au PPACI d'être présent aux élections législatives et présidentielles qui s'annoncent pour les deux années à venir.
Merci encore à vous, M. Geoffroy Julien Kouaou.
Merci beaucoup.
Au revoir.
À l'instant, le juriste et analyste politique Geoffroy Julien Kouaou, aujourd'hui invité de la rédaction, il répondait aux questions de Gapien Ouattara, un entretien qui met un terme à cette édition dont voici le rappel des titres. Dans cette édition, il a été question de la décision du gouvernement ivoirien d'accompagner le patronat pour un secteur privé plus dynamique et plus performant. Une annonce faite lors de la clôture de la 11e édition du Forum économique CGC Academy par le Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mambé. Et puis, parlons de transport. Le guichet unique améliore son système d'immatriculation des véhicules. Après 4 mois de renouvellement de ce système, 250 véhicules sont immatriculés par jour. C'est ce que nous a appris Junior Cardin dans cette édition. Et puis dans l'actualité sur le continent, une délégation s'est rendue en République démocratique du Congo pour rencontrer l'opposant tchadien Succès Mara en exil dans ce pays en vue d'un retour sur sa terre natale, le Tchad. Merci à vous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'actualité sur Radio de la Paix, 8h.
Radio de la Paix. Se parler. S'écouter. Se comprendre.